Une vie, une œuvre, Giacomo Puccini, 1858, Italie, 1924, Belgique. Né à Lucques, en Toscane, Giacomo Puccini a dès le berceau été entouré de musique. Le premier chemin emprunté le conduit vers l'orgue et la musique religieuse, mais lorsqu'il assiste à la représentation d'Aïda, à Pise, en 1876, il est bouleversé et décide de devenir compositeur d'opéra. Il triomphe avec le Villi au Théâtre de Milan le 31 mai 1884. Peu de temps après, tombé amoureux d'Elvira Geminiani, jeune femme déjà mariée, il quitte Lucques pour Torre del Lago, où naîtra leur fils, Antonio. Puccini fait partie du club de la Bohème avec des passionnés de chasse et de pêche. Dans le règlement, on peut lire « Se porter bien et manger toujours mieux, carême prenant, crétins et puritains seront chassés un continent. Le président se chargera d'empêcher le trésorier de ramasser les cotisations. Il est interdit de garder le silence. La sagesse est prohibée. » Les critiques le dédaignent, en dépit d'un succès indéniable. Ils assimilent volontiers son œuvre à des mélodies populaires. Aujourd'hui, dans tous les opéras du monde, sont joués Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly ou Turandot. Laetitia Leguet signe, avec Christine Robert, Une vie, une œuvre, Giacomo Puccini.
Merci. Mesdames et messieurs, si je me présente à vous ce soir, c'est que ce sont mes premières chorégies.
Je suis donc Jean-Louis Grinda, vous prenez la suite de Raymond Dufaux aux chorégies d'Orange. Quelles sont les trois clés pour entrer dans Puccini ?
J'ai peur qu'il y ait deux clés de trop. Je crois que c'est la seule clé, c'est de franchir la porte du théâtre et de s'asseoir à sa place.
Giacomo Puccini, l'ermite des marais, par Laetitia Leguet et Christine Robert.
Giacomo, c'est Jacques, et Puccini, c'est Poussin, je ne sais pas. C'est peut-être, c'est sans doute Jacques Petit Poussin, mais il faudrait vérifier. Giuseppe Verdi, c'est Joseph Vert. Ludwig van Beethoven, c'est Louis des Betteraves. Mais pourquoi pas, Jacques Poussin, après tout, Poussin, c'est un nom illustre, il y a un peintre. Bon, soyons sérieux.
C'est ça qui est fantastique chez Puccini, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance quelconque du monde de l'opéra pour apprécier un opéra de Puccini. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous émeut, qui vous frappe immédiatement. Et il y a une rapidité aussi chez Puccini, une concision qui est vraiment très moderne. On ne s'attarde pas, les airs ne sont pas chantés deux fois, il n'y a pas de da capo, il n'y a pas d'effet. Il y a des effets, mais on sort de la convention pour être dans la narration continue. C'est pour ça que c'est si facile pour un metteur en scène,
Chantal Cazot, la magie Puccini, le magnétisme Puccini, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ça représente certainement un mystère, c'est-à-dire qu'on a un compositeur qui n'est pas réductible à un certain type d'histoire, un certain type de personnage, un certain type de musique. On a tous les opposés dans son œuvre. On a les histoires les plus intimistes avec les grandes fresques les plus spectaculaires. Et on a aussi un homme qui est lui-même un véritable mystère, qui a été à la fois à la une des journaux, en plein fait divers, d'abord vaudevillesque et puis sordide, et en même temps une personnalité très étrange qui pouvait être enthousiaste, bon vivant et puis très mélancolique. Donc on a tout un portrait comme ça d'un artiste assez insaisissable et qu'il faut essayer de pénétrer sans préjugés et sans image trop arrêtée finalement.
Élégance raffinée, visage régulier et sensuel, moustache dissimulant la lèvre supérieure, paupières tombantes, un charme un peu mélancolique auquel succombèrent de nombreuses conquêtes féminines, photos et films nous ont laissé des images nombreuses de Puccini. On le voit devant sa villa ou au volant de l'une de ses luxueuses automobiles dernier cri qu'il collectionnait comme les bicyclettes.
Puccini, je le vois comme un hédoniste mélancolique.
Christian Vasselin.
Puccini a finalement assez peu composé. On parle du rythme soutenu de sa production au début du XXe siècle, La Bohème 1896, Tosca 1900, Madame the Butterfly 1904. Mais après tout, il se passe 4 ans après chaque opéra. Et je pense qu'il était peut-être pas paresseux, puis d'ailleurs la paresse n'est pas en soi un défaut, hein, mais il était hédoniste et je pense qu'il aimait aller à la chasse. On sait, il aimait aller à la chasse, il avait une collection de fusils, c'est assez important. Il aimait conduire des belles voitures, il aimait faire de la bicyclette. Et on sait aussi qu'à New York, il a beaucoup aimé flâner dans la ville. Je comprends, parce que New York est une ville assez fascinante. Mais je crois qu'il y avait un côté contemplatif chez Puccini qui fait qu'il a beaucoup, rêvé. Je pense qu'il a beaucoup rêvé, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup contemplé avant de se jeter dans la composition. Et je pense qu'il y avait une part de mélancolie en lui. Et je veux dire une banalité, l'homme fait l'œuvre. Mais s'il y a tant de tristesse, tant d'élan, mais aussi tant de mélancolie, tant d'élan brisé dans sa musique, c'est parce qu'il y avait sans doute quelque chose en lui qui correspondait à ce trait de caractère. Et je crois que Puccini a toujours été cette espèce de gourmand, cette espèce d'amoureux de la vie, cette espèce d'amoureux des femmes, d'amoureux de la nature, mais en même temps contrarié par une espèce de nostalgie inquiète qu'il portait en lui.
Figure de la belle époque, Puccini est à la charnière de deux mondes. Le romantisme tardif, dans lequel il s'enracine encore, et le XXe siècle, dans lequel il fait entrer, comme l'air de rien, l'opéra italien. Son succès est immense, la musique submerge, la courbe vocale emporte. De ses essais de jeunesse, Les Villi et Edgar jusqu'à Turandot, inachevé, ces 9 opéras déclinent une seule et même histoire. La plénitude de l'amour entrevue, le rêve pressenti qui se défait et que l'on cherche en vain, avec une espérance folle, à retenir. L'univers puccinien, par là, dit en miroir quelque chose de la grande histoire qui s'opère en même temps, la civilisation du XIXe siècle, que la Première Guerre mondiale et la montée des fascismes engloutissent.
Puccini au début des années 90, c'est déjà
Bernard Chambaz.
Un grand garçon, il a plus de 30 ans, il a passé la trentaine et il commence à devenir un musicien reconnu. Et pour lui, en fait, tout va basculer avec un opéra qui est Manon Lescaut, qui lui assure à la fois un succès public, un succès d'estime et des premiers revenus financiers.
Chantal Cazaux, on dit souvent que Puccini est devenu Puccini avec Manon Lescaut. Qu'est-ce qui se cristallise dans cet opéra ?
Très certainement la toute première maturité d'un jeune compositeur qui a déjà 2 essais derrière lui et qui, avec ces 2 essais, à la fois a appris à tenter sa chance et également à expérimenter ce qu'il ne faut pas refaire. Le librettiste de ses 2 premiers opéras de jeunesse est évacué. On va donc avoir avec Manon Lescaut, bien que le livret soit problématique et dû à une multitude de plumes qui sont intervenues dessus, malgré tout, une source, la Manon Lescaut de l'abbé Prévost, très judicieusement choisie. Une vraie émulation pour le compositeur qui est de se comparer au grand modèle 10 ans auparavant, grosso modo, qui est la Manon de Massenet. Et pour un jeune compositeur italien, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Et c'est un vrai défi qu'il relève crânement, je dirais. Et donc dans cette démarche, il y a probablement là toute l'énergie qui fait qu'il va donner le meilleur de lui-même à ce moment-là et réussir un véritable chef-d'œuvre. Et c'est, il est vrai, son premier triomphe qui devient international et Puccini devient très connu et devient quasiment une figure de proue de l'opéra italien du jour au lendemain. Il entre tout d'un coup dans la cour des grands.
À quoi ressemble le paysage musical italien à ce moment-là ?
Le paysage lyrique italien, très certainement, manque un peu de soleil, je dirais, parce qu'il est dominé par deux grandes ombres, l'ombre de Verdi et l'ombre de Wagner. Wagner a une importance considérable en Italie, il a été joué en Italie très tôt, et les oppositions à Wagner, comme en France, sont virulentes. Et donc, un jeune compositeur italien d'opéra doit à la fois se situer par rapport à Verdi, comment prendre la suite de Verdi. Il faut rappeler que lors des premiers essais lyriques de Puccini, Verdi non seulement n'est pas mort, mais n'a pas composé encore son Falstaff. Donc on est vraiment dans un passage de relais qui est évidemment très, très difficile pour un jeune musicien italien. Et également, où on doit trouver sa place, réussir à faire entrer l'opéra italien dans le XXe siècle. Donc, l'opéra italien avait cette universalité du chant, de la voix, de l'héritage du bel canto. Avec Puccini, il va trouver une forme d'universalité de l'orchestre. Et c'est là le lien avec Wagner qu'on va au début lui reprocher et qui en fait fait aussi la richesse de ses partitions.
Quand on écoute une grande scène de Puccini, on est évidemment pris, séduit par l'élan des voix, par le lyrisme qui se dégage des voix. Et quand on a une écoute un peu plus analytique, un peu plus précise, on se rend compte que c'est l'orchestre également qui non seulement porte les chanteurs, mais qui crée l'enchantement sonore de la musique de Puccini. La musique de Puccini, elle est enchanteresse parce qu'à la fois elle est lyrique, elle fait chanter les voix, mais aussi parce qu'il y a tout un substrat, pardon pour ce terme un peu précieux, tout un souterrain, tout un univers instrumental qui à la fois enveloppe les voix et les porte. Et dès le premier opéra qu'il a écrit, Les Villi, une espèce de, comment dire, d'exercice d'étudiant un peu affranchi pour répondre à la commande d'un concours d'opéra, dès Les Villi, il y a des couleurs instrumentales qui sont peut-être pas très très personnelles à Puccini, qui peut-être évoquent Weber, voire Beethoven, mais c'est aussi le sujet qui s'y prête. Mais il y a dès cet opéra-là un souci de l'orchestre qui est assez remarquable et qui évidemment ne quittera pas le compositeur jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à la magnificence de l'orchestre de Turandot. Alors cet orchestre de Puccini est aussi porté par un sens de l'harmonie qui est très très particulier. Une écoute distraite, encore une fois, pourrait laisser penser que Puccini est le compositeur des épanchements un peu faciles, un peu sentimentaux. Mais une écoute attentive nous montre que l'harmonie de Puccini est extrêmement travaillée, extrêmement originale, extrêmement en tout cas personnelle à Puccini.
Donc on a ces deux œuvres de jeunesse, une qui est une œuvre de concours, Les Villi, puis Edgar. On a le premier triomphe de Manon Lescaut en 1893. La bohème qui va confirmer ce triomphe malgré les vicissitudes des premières représentations, mais on a vraiment là quelque chose qui va d'emblée trouver sa place dans le répertoire. Et quelques années plus tard, Tosca. Donc imaginez cette succession, Manon Lescaut, la bohème, Tosca, et juste ensuite, à nouveau, Madame Butterfly, donc à nouveau un succès flamboyant et une œuvre qui s'inscrit dans le répertoire et qui encore aujourd'hui, pour trois d'entre eux, font partie des 10 opéras les plus représentés sur la planète.
Je crois que les années 90 et la première décennie du XXe siècle sont un tournant dans l'histoire économique de la musique. C'est pas seulement l'édition des partitions, là, ça devient l'impression des disques. Alors c'est vrai pour les compositeurs, c'est vrai pour les chanteurs.
Giacomo Puccini à New York remercie pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu.
Il y a aussi cette amitié qui se développe à partir de son voyage à New York entre Puccini et Caruso.
Ces partitions vont se transporter à Paris, à Londres, et il faut imaginer que dès 1900, Tosca, qui est donné en Italie, est donné la même année à Londres. Puccini franchit la Manche pour aller superviser la production de Tosca, comme il le fera quelques années plus tard pour supervisé la production de Madame Butterfly à Buenos Aires. Et dès 1905 à Buenos Aires, lorsque le Teatro Colón reçoit Madame Butterfly, il décide de faire un festival Puccini. Pour ce compositeur qui a 5 opéras derrière lui, ils vont donner tous les Puccini en 1905. Un succès comparable au succès d'une pop star aujourd'hui.
Un succès qui s'appuie aussi sur un formidable éditeur impresario.
Oui, absolument. Il y a l'équipe Ricordi qui a su saisir la balle au bond lorsque Sonsogno, qui avait organisé son concours, a dédaigné la partition des Villi. Ricordi immédiatement saisit cette partition. N'est peut-être pas le chef-d'œuvre de l'année, mais son compositeur est prometteur, donc je prends un contrat avec lui. Et en effet, l'éditeur Ricordi a été pour beaucoup dans ce succès. Il a su donner les bons sujets à Puccini, le sujet de la Bohème, le sujet de Tosca. Il a su, quand il le fallait, évincer d'autres compositeurs qui étaient en contrat avec lui sur les mêmes sujets. Je pense à Léon Cavallo et à sa Bohème, qui avaient commencé à y travailler pour Ricordi et que Ricordi a évincé pour ensuite donner le contrat à Puccini. Donc Ricordi a bien sûr été très important dans le succès de Puccini. Il y a une équipe compositeur-éditeur comme une équipe artiste-producteur ou artiste-agent qui est très moderne et pleine de succès.
En 1891-92, quand il est en train d'écrire Manon Lescaut, Puccini a déjà tout un savoir-faire de musicien qu'il a appris depuis la petite enfance, en fait.
Oui, Puccini est l'héritier d'une longue lignée dynastique de musiciens à Luc, les Puccini. D'ailleurs, il y a eu un Giacomo Puccini au début du XVIIIe siècle. Donc, par son père, c'est une lignée de compositeurs qui sont traditionnellement les compositeurs de la cathédrale de Luc, donc des compositeurs principalement versée dans la musique sacrée. Néanmoins, elle perd son père à l'âge de 5 ans, et c'est finalement son oncle maternel qui va lui donner ses premiers cours de musique. Et il va entrer très rapidement au conservatoire de Luc, où il va être formé. Et de là, après sa première formation au conservatoire de Luc, il va intégrer le conservatoire de Milan, où il va avoir parmi ses différents professeurs, notamment Ponchielli.
Star international, Puccini fut pourtant l'homme d'un lieu, la petite ville de Torre del Lago, en Toscane. Une tour, un lac, des herbes hautes et des oiseaux, entre ciel, mer et montagne, où il revenait toujours. Travailler sans relâche, avec le plus extrême souci du détail. « Je suis un ermite des marais », disait-il. Nuit magnétique.
Alors la Toscane,
Marcel Marna, 1992.
C'est un peu difficile de parler du rapport Toscane-Puccini, dans la mesure où, à première vue, Puccini est quelqu'un qui a fui la Toscane, donc, pas fui, mais enfin quitté la Toscane très jeune, s'est complètement formé à Milan et qui est donc une émanation de l'esprit qui régnait à Milan. Cela dit, Puccini, curieusement, ne se plaisait pas en ville et dès qu'il a eu suffisamment de disponibilité pour voyager un peu, il s'est replié sur la campagne. Et quelle campagne ? Il est revenu, non pas à Luc, mais très près de Luc, à Torre del Lago. Alors, à Torre del Lago, l'endroit lui plaisait pour une raison qui pourrait paraître mineure, mais qui était finalement décisive. C'était, d'une part, un grand lac sur lequel il pouvait chasser le canard. Il était passionné de la chasse au canard. Et puis, le succès venant, notamment après la Bohème qui lui a valu des droits d'auteur considérables, il a fait construire une très, très vaste villa sur les bords de ce lac à Torre del Lago, qu'il installe en fonction à la fois de son travail de compositeur et de sa passion de chasseur. C'est là qu'il travaille. Alors, Torre del Lago, on peut considérer que c'est le berceau d'à peu près toute l'œuvre de Puccini. La Bohème, c'est-à-dire, disons, la Tosca, Butterfly, et toute l'œuvre qui suit, je les donne un peu dans le désordre sans doute, mais enfin, la Fanciulla dell'Ouest, la Rondine, ont été, même le triptyque, ont été composés à Torre del Lago.
J'en ai assez de Paris. Je meurs d'envie de retrouver nos bois et leurs parfums pénétrants. Je meurs d'envie de sentir ma bedaine à son aise dans de larges pantalons et sans gilet. Je hais les trottoirs, je hais les palais, je hais les capitales, je hais les colonnes. J'aime ces magnifiques troncs des peupliers et des sapins, dont tel un druide des temps modernes, j'aime faire mon temple, ma maison, mon cabinet de travail. Je déteste les paquebots, les hauts de forme et la queue de pie. 10 mai 1898, Giacomo Puccini.
Et là, il y avait une auberge dans ce village de Torre del Lago, bien connu maintenant parce qu'il y a sa maison, qu'il y a un festival Puccini actuel. Et il avait beaucoup de copains dans cette auberge avec lesquels il s'amusait, il se déguisait, il menait une espèce de grande vie aimable. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, le noyau de la Bohème.
Legna, sigari, Bordeaux, legna, Bordeaux. Le novizie d'una fiera in destinci destinò, mangio di Francia per voi si ispirò. Ratatatata, son pezzi di lana.
Sei sordo, sei lippo, quest'uomo chi è?
Luigi Filippo, tutto
il mio re. San Luigi Filippo, ai nostri piè.
Ordinirò quest'oro come gli argento. Alla fa brava istoria.
Noi stagliamo il cammino, ho freddo sofferto.
Un inglese, un signor. L'oro di l'orbe. Non è un musicista.
Via, prepariamo la tavola.
Pesca dov'è?
No,
qua, e mi presento.
Mariam Clément, pourquoi toutes ces boîtes là, de couleurs différentes d'ailleurs?
Alors j'ai des boîtes partout dans mon appartement qui envahissent toutes les pièces de l'appartement, parce que j'ai pas vraiment de bureau. J'ai une boîte par opéra, une boîte par production que j'ai faite dans ma ville. Alors, ce sont des partitions de mise en scène, donc ce sont évidemment pas des conducteurs d'orchestre, parce que ça serait trop volumineux. Une boîte par opéra, alors avec des partitions, des papiers, des photos, des petits mots que j'ai eus à la première, des documents de préparation, des plannings de répétition, des... Là, j'ai mis... on est au quatrième acte de la Bohème, j'ai mis... Musette, débat avec elle-même, très envie de partir avec Marcello, de lui parler, elle le regarde de dos, enfin voilà, des petites choses comme ça. J'ai fait des petits croquis aussi pour dire où sont chaque personnage. On voit Mimi allongée sur le lit, Rodolfo à côté, enfin bon. Mais ça peut être aussi des indications générales. Par exemple, au début de l'acte 4, j'ai mis chaud, en majuscule, encadré. Donc je pense que je voulais dire, ne pas oublier de dire au chanteur une chose évidente. Attention, il fait très chaud, vous avez chaud tout le temps, vous êtes en sueur, voilà. Et le dernier acte de la Bohème, c'est en été, il fait chaud. En plus, ils sont sous les toits, donc il fait forcément une chaleur accablante. C'est pour ça que c'est très touchant que Mimi ait froid aux mains, puisque justement, il fait chaud. Et tout le monde meurt de chaud, tout le monde transpire à grosses gouttes, et elle a froid, elle veut un manchon pour mettre ses mains, ce qui est complètement, complètement absurde, évidemment.
Février 1896, la Bohème est créée au Teatro Reggio à Turin, sous la direction d'Arturo Toscanini.
Ça, c'est un opéra que je trouve très moderne, d'une certaine manière un des plus étonnants parmi les opéras de Puccini, justement parce qu'il ne parle de rien. C'est-à-dire que c'est un opéra qui parle de personnages qui, dans d'autres opéras, seraient des seconds rôles. Là, c'est comme si c'était l'opéra des seconds rôles devenu premier rôle. Et puis, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire qu'on peut résumer la Bohème en une phrase. Voilà, des jeunes artistes vivent ensemble. L'une tombe malade et meurt. Bon. Et c'est une œuvre que j'ai appris à aimer en la mettant en scène, vraiment. Avant, je sais pas, elle ne me touchait pas beaucoup. Et justement, quand on se plonge vraiment dedans, on voit à quel point c'est proche de la vie. C'est ça qui est génial chez Puccini, c'est l'art de la conversation, plus que les airs pour moi. C'est toutes ces scènes de conversation où on parle, où la musique exprime vraiment les sentiments au plus près de ce qu'on ressent dans la vie. Le troisième acte de la Bohème, c'est merveilleux. Ce n'est que de la conversation, du bavardage, le troisième acte de la Bohème. Et pourtant, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On ne comprend pas s'il s'aime, il s'aime plus, il s'aime pas. Alors bien sûr, Rodolfo va quitter Mimi parce qu'en fait, c'est pour son bien, parce qu'elle est malade. Mais en même temps, il est jaloux. Il est quand même jaloux. Mimi arrive, parle à Marcello. Elle se plaint. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte... C'était très énigmatique pour moi, ce troisième acte. Je ne comprenais pas très bien comment le prendre. Et je me suis rendu compte, en l'étudiant vraiment, que c'est exactement comme quand une copine vous appelle et qu'elle a un chagrin d'amour. Et en fait, on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'elle vous parle, elle vous dit « oui, je sais pas, je l'aime, mais en même temps, mais si, mais ça ». Et on écoute, on comprend, et c'est tellement juste, et en même temps, on ne comprend pas vraiment. Le troisième acte de la Bohème, c'est étrange comme la vraie vie. Je ne sais pas comment dire. Et il ne s'y passe rien, comme la vie, quoi. Il se passe tout et rien.
Boston. Au cours d'une masterclass, le chef d'orchestre Benjamin Zander conseille la soprano Sarah Cooper. Oui, vous voyez, le problème, c'est que personne ne parlerait comme ça. Ce qui est incroyable avec Puccini, c'est qu'il est un homme moderne, écrivant dans le style de la conversation. Il écrit sa musique, ce n'est pas une aria de Verdi, c'est presque du récitatif. Si votre fabuleuse pianiste pouvait jouer avec un peu plus de liberté... Alors vous pourriez être un peu plus parlando. C'est bien, on y est. Cela sonne plus comme quelqu'un qui parle. Donc ici, vous ne montrez pas votre voix, vous révélez votre âme. Très bien, encore une fois. Et c'est une façon merveilleuse pour l'orchestre de vous donner votre note. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce oui? Pourquoi dites-vous oui? Il pose une question. Vous dites oui. Soyez quelqu'un. Parlez-moi de vous. Vous voyez, le secret pour être dans le drame, c'est de créer le drame tout le temps. Donc, parlez-moi de vous.
Bon, il se passe rien, et en même temps, enfin, de quoi ça parle? Ça parle aussi quand même de l'art, la Bohème. C'est-à-dire que ça nous explique aussi que la beauté peut résider dans les toutes petites choses, dans du papier peint sale, dans une chambre dégueulasse. C'est ce que Mimi explique à Rodolfo, en fait, dans son air. Elle lui dit, voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est les petites choses, une fleur qui éclot, comme ça, c'est ça qui m'émeut. Et moi, j'imagine toujours que ce Rodolfo, il essaie d'écrire de grandes poésies lyriques, etc. Et quand il rencontre Mimi, il se rend compte que la vraie poésie peut être ailleurs. La vraie poésie est peut-être dans les choses... voilà, c'est la leçon de Mimi à Rodolfo. Il y a du beau dans les choses simples. Mais c'est aussi la leçon de Puccini à son public, enfin, ou à ses contemporains.
Il y a des personnages en effet qui sont mélodramatiques dans son œuvre ou qui relèvent du mélodrame bourgeois même, mais qui sont toujours animés par des émotions d'une extrême subtilité. Le fait qu'il y ait des personnages d'une classe sociale médiane, je dirais, ce qui est quelque chose d'assez nouveau dans le répertoire lyrique en Italie, quelque chose qui a commencé à naître peut-être un petit peu avec la Traviata de Verdi, et puis qui petit à petit s'est un peu ancré dans le répertoire. Ces personnages sont vivants d'émotions palpables et d'émotions que tout un chacun dans le public peut reconnaître. À nouveau, une grande différence avec Verdi. Il est difficile de s'identifier au combat patriotique d'un ténor qui combat pour l'indépendance d'un territoire péninsulaire au XIIIe siècle, comme on peut trouver dans les premiers opéras de Verdi. Il est extrêmement facile de s'identifier à la maladie de Mimi, à l'amour éperdu que lui porte Rodolfo sans savoir comment l'apprendre, à ses amours ratés parfois, à ses amours qui, au quotidien, sont de vrais amours, mais n'arrivent pas à se réussir et à se sublimer dans l'idéal. Et cette absence de sublimation, on peut l'appeler une forme de mélodrame bourgeois, quelque part, mais c'est aussi tout simplement la vérité de la vie. Puccini a hérité de Verdi ce sens du galbe vocal de la ligne mélodique. Il y avait quelque chose chez Verdi de plus rythmique, de plus pulsif, d'une nervosité intrinsèque de la ligne, qui devient chez Puccini quelque chose de plus languissant, de plus malléable, de plus plastique. Ce qui fait que toutes les qualités du bel canto, à savoir l'égalité de timbre, la longueur de souffle, la beauté intrinsèque du timbre, sont des qualités qui vont, chez Puccini, s'associer en plus à une forme de coloration permanente de la ligne. Dans un air puccinien, un personnage en quelques mesures et parfois presque en quelques notes, va devoir passer d'une émotion à une autre, de façon très variée, d'un état d'esprit à un autre, de façon très variée. Alors que, encore 20 ans auparavant, l'opéra italien était encore tributaire d'une forme où un air va exprimer une émotion. Peut-être la partie centrale de l'air exprimera une autre émotion, mais tout ça était extrêmement formalisé, extrêmement articulé. Et chez Puccini, on touche du doigt l'évolution des sentiments, une sorte de fondu enchaîné permanent de l'émotion exprimée, et ça devient une difficulté primordiale pour l'expression du chanteur qui doit concilier finalement un jeu d'acteur dans sa voix avec les conditions du bel canto, d'une belle technique en tout cas.
Essayez-vous. Je vais devoir me refaire le maquillage. Seigneur. Mais laissez la porte ouverte. Il y a plus d'air. Voilà. Pour les auditeurs, je suis en peignoir léopard. C'est mon peignoir de chanteuse. Je le trouve drôle. On va entendre les ventilateurs. C'est pas grave, ça va faire un bruit de fond. Non, c'est les bruits d'orange.
Marie-Nicole Lemieux, on est là dans votre loge,
oui.
Chaude, belle chaude, perruque lourde.
C'est un pléonasme à orange, ça fait partie de la vie.
Ouais. Vous avez chanté de nombreux rôles de Puccini dans Sœur Angelica, Giannis Kiki, ce soir vous êtes Suzuki dans Madame Butterfly. Qu'est-ce qui pour vous caractérise le chant puccinien par rapport à beaucoup d'autres rôles que vous avez endossés, notamment dans l'opéra italien?
Je dirais que c'était Jacques Lacombe, le chef d'orchestre québécois, qui m'avait raconté ça. Il avait résumé, c'est la bouilloire. Il y a toujours une bouilloire dans une loge de chanteuse. J'adore. Donc c'était... qui me disait, en fait, qui expliquait que chez Verdi, par exemple, c'est la voix qui porte l'orchestre, c'est la voix qui mène. Et chez Puccini, c'est l'orchestre qui porte la voix. dans tous les opéras que j'ai fait de Puccini. C'est un peu comme dans Debussy, Pélas et Mélisande. Je me fais un devoir de connaître la partition musicale, d'avoir les références, parce que c'est surtout ça qui... En fait, on surfe, pardonnez l'expression anglaise, mais voilà, on surfe sur l'orchestre, on vogue là-dessus, et en fait, ça demande quand même... Je ne sais pas comment dire. C'est pas nécessaire, parce que j'allais dire, je ne veux pas l'expression, ça demande une grande voix. C'est pas ça, ça demande... Il faut être musicien pour chanter Puccini. Il faut vraiment avoir une espèce de... une conscience orchestrale pour chanter ça, vraiment. Parce que les intentions, par exemple, surtout dans les seconds rôles, les intentions sont souvent creusées, sont souvent... c'est comme un bijou. Et puis, il y a la base qui est l'orchestre. Et quelquefois, nous, on va mettre une petite perle là, un petit émeraude. Et en fait, il faut savoir s'imbriquer là-dedans. Et le défi, c'est tout en étant quand même expressif.
Bonjour, good morning. Greetings from Orange. I have to tell you that it's a little bit warmer there than it's here, so you will be very happy, I hope, next week. Ah, butterfly, yes.
Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France en répétition.
It stops a little bit now.
L'autre soir, j'étais à une répétition ici à Orange avec Mico Franck, qui dirige Butterfly, et je regarde la partition de Mico Franck, le conducteur d'orchestre, hein, sur lequel, lui, ne fait pas une annotation. Vous savez qu'il y a des chefs qui mettent beaucoup de couleurs, du rouge, du vert, du bleu, des flèches qui soulignent, qui accentuent. Bon, chacun sa méthode. Et lui, il n'y a rien. Et je lui dis, tiens, je suis content de voir un chef qui ne... Mais il me dit, mais j'ai pas besoin de, sur cette partition, j'ai besoin de ne rien mettre. Parce que tout y est. Et quand on met en scène, quand on se pose, on met la partition de Tosca devant soi ou de Bohème, tout y est. Tout y est. Après, à vous, au metteur en scène, d'interpréter ce qui est. Le chef aussi interprète. Mais c'est vrai que tout y est. Puccini est un guide théâtral absolument magistral.
Mico Franck.
Well, Puccini is one of my favorite opera composers.
Puccini est l'un de mes compositeurs d'opéra préférés parce que c'était vraiment un homme de théâtre. Il savait exactement comment écrire la musique pour le théâtre. Et tout ce qui se passe sur scène et dans l'histoire et dans la partition, très clairement, avec différentes couleurs, différentes nuances, l'utilisation de l'orchestre.
And of course, Puccini was a genius also in the way he writes for the orchestra.
Puccini était aussi génial dans son écriture pour l'orchestre. Les harmonies, l'instrumentation sont vraiment fantastiques. Une autre particularité de Puccini, c'est que pendant l'opéra, il utilise les mêmes thèmes, mais de façon légèrement différente chaque fois, pour marquer les situations et les émotions. Les mêmes passages de quelques notes peuvent exprimer la tristesse ou la joie, les mêmes notes avec différentes couleurs ou harmonies. La musique de Puccini est si parfaite qu'il n'y a pas de moment faible, rien de superflu dans la musique. C'est pour cela que mon passage préféré dans cet opéra va du tout début jusqu'à l'extrême fin.
Thank you.
Thank you.
Alors ce soir, vous êtes Suzuki.
Oui.
Et cette Suzuki, vous la vivez comment? C'est quoi ce personnage?
Suzuki, en fait, c'est le public qui est sur scène, c'est le personnage qui voit venir cette descente dans l'abîme et qui ne peut rien faire parce que elle est quand même une servante, elle est quand même l'obligée de Butterfly et la loi japonaise étant que jamais je n'irai contre son gré. Alors voilà, elle représente un peu le public qui a envie de la serrer dans ses bras, qui la prévient, mais qui assiste quasi impuissante. Et donc elle est toute là avec elle est complètement en réconfort, elle souffre sur scène avec elle et elle est toujours là, elle est toujours là. Parce que c'est ça, souvent elle ne chante pas, mais Butterfly s'adresse toujours à Suzuki. Suzuki, vous allez voir, elle lui parle tout le temps.
Juillet 2016, Mikko Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France ouvrent les Corrigis d'Orange avec Madame Butterfly de Puccini. Dans le rôle de Chucho-san, Hermonella Yaho, et la mezzo Marie-Nicole Lemieux, dans le rôle de sa suivante Suzuki. Ces femmes, toutes ces héroïnes féminines de Puccini, est-ce qu'il y a un archétype qui domine?
Puccini adorait les sopranos, adorait les voix de femmes, adorait les sopranos. Oui, la soprano puccinienne, en fait, je crois, c'est des femmes très sensibles, très intenses et très fidèles. Je pense à Soeur Angelica qui va son chemin, mais en même temps, elles ont le poison ou le couteau facile. Elles vont toujours vers la, je pense à Liu qui se suicide. Ben voilà, Butterfly, Soeur Angelica, Manon qui meurt sur scène, Manon Lescaut. Bon. Là, au moins, il y a dans la bohème, il y a au moins... Bon, elle meurt, c'est pas de sa faute. Mais je pense qu'elle aimait beaucoup le drame. Je pense le drame des... C'est ça qui est beau chez Butterfly, c'est ce qui me touche. C'est un drame de petites gens. Hein. Tu sais, Pinkerton, c'est pas un général de l'armée, là. C'est un lieutenant. Là. C'est pas un haut gradé. Butterfly, elle vient d'un milieu modeste. Ce sont des petits gens. C'est comme dans la bohème. C'est des petits. C'est des gens de la comme nous, quoi. Et c'est d'autant plus touchant. Je pense que c'est ça qui fait aussi que ça a touché tellement. De personnes. La musique est grandiose, mais le sujet, c'est dramatique, évidemment. Mais on s'attache, on s'identifie à ces personnes-là. On s'identifie à une jeune fille qui était amoureuse et qui est tombée enceinte, puis sa famille l'a reniée, puis l'a envoyée dans un couvent comme punition. Là, je parle de Soeur Angelica. On la comprend, cette femme-là. En fait, Madame Butterfly est un fait divers qui est arrivé. Une jeune japonaise s'était suicidée après le retour. Oui, c'est un fait divers. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est d'une grande tristesse, mais bon, le monde n'est pas toujours gay. Hein?
Il va faire bon ce soir. Il y a pas de vent.
Jean-Louis Grinda, en tant que metteur en scène de Puccini, puis de Monte Tosca,
oui.
Pourquoi tant de femmes qui meurent dans les opéras de Puccini?
C'était un sage. Non, je fais un vilain mot. Alors le premier sacrifice qui me vient, comme ça, c'est le sacrifice de Liu, dans Turandot, qui se sacrifie pour ne pas parler, pour ne pas dire le nom de Calaf. Sacrifice de Butterfly, parce que c'est l'ouverture donc, du festival des Corégies, et ben voilà, qui se sacrifie à la fin de façon inouïe, je trouve insensée. Manon Escaut est intéressant, parce que là, pour une fois, c'est pas la femme qui se sacrifie, c'est le ténor qui va la suivre, qui va quitter son... par amour, qui la suit, qui part aux Amériques, parce qu'il abandonne tout, alors qu'il pourra rester dans son confort, mais l'amour est plus fort, et pour une fois, c'est l'homme qui suit la femme, qui est emprisonné, certes, injustement, bien évidemment, mais qui... voilà, c'est l'homme qui le suit. Et dans Tosca, oui, alors évidemment, là... elle se sacrifie, elle se suicide. C'est quelque chose de très beau, cette fin de Tosca. Elle se sacrifie parce que c'est une femme extrême, Tosca. C'est une grande amoureuse, c'est une diva. C'est une vraie diva. C'est une femme de théâtre. Son entrée en scène, et d'ailleurs sa première entrée, est théâtrale, avec les fleurs dans les mains, les bras, c'est clair. Et elle joue un rôle avec lui. Et comme ce sont deux artistes, ne l'oublions jamais, lui est peintre, elle est chanteuse. Ce sont deux artistes, donc ce sont deux artistes qui se jouent aussi un peu la comédie entre eux, au premier acte et même au dernier acte, quand elle lui dit... comme la Tosca in théâtre. Alors, ben, tu dois jouer, fais semblant de mourir comme la Tosca au théâtre le fait. Et là, elle va se sacrifier parce que voilà, elle est au bout du chemin. Pas parce qu'elle a peur de la sanction parce qu'elle a tué quelqu'un. Toscarpia, non, je pense qu'elle est au bout de son chemin d'artiste, elle a perdu sa muse.
Mario, su presto andiamo. Su, Mario, Mario. Mario, morto!
Mi dico pugnalato!
Mario!
Di armi!
Povera donna!
Tosca la fuga!
Mario, a Mario!
Venga le scale!
Venga le bocche delle scale!
Sans vouloir citer trop Catherine Clément, l'histoire de l'opéra, c'est l'histoire de la défaite des femmes, puisque des origines jusqu'à nos jours, si j'ose dire, les héroïnes d'opéra souvent meurent. La Traviata meurt, Carmen meurt, Iphigénie se sacrifie, enfin, etc. Donc il a peut-être poussé Puccini un tout petit peu plus loin que d'autres, le sacrifice des femmes, la mort des femmes. Je pense que Puccini voulait toucher le public, ce qui après tout est tout à fait légitime, mais pas du tout par des moyens qui soient condamnables. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure du chant chez Puccini, de l'orchestre chez Puccini. Il y a tout un faisceau de moyens chez Puccini, moyens orchestraux, moyens vocaux, moyens harmoniques, moyens rythmiques, qui font que le public est touché. Mais il n'y a pas chez lui de volonté délibérée de faire vulgaire ou de faire se déboutonner les chanteurs et les chanteuses pour faire pleurer Margot, donc je ne crois pas.
Thank you.
Les femmes et Puccini, c'est un grand dossier qui n'est pas qu'un dossier à charge. Il y a d'abord une très belle histoire avec son épouse et je voudrais réhabiliter Elvira qui a souvent été considérée dans les écrits sur Puccini comme une forme d'épouse acariâtre et harpie qui aurait contraint son mari et qui l'aurait rendu très malheureux. Elvira, c'est d'abord une femme qui a, dans l'Italie de l'époque, tout quitté son époux, quitté un de ses enfants pour aller vivre avec son amant qu'elle aimait passionnément, Giacomo Puccini, et dont elle venait d'avoir un enfant adultère. Et c'est un geste d'une folie qu'on ne mesure peut-être plus aujourd'hui, et je pense que c'est un geste que Puccini, lui, n'a pas cessé de mesurer, et c'est pour ça qu'il est resté aussi avec Elvira. Et leur mariage qui a été mis à mal par de très nombreuses aventures extra-conjugales de Giacomo Puccini, s'est ressoudé vers la fin et est redevenu une forme d'union sacrée qui n'avait somme toute jamais cessé d'exister sous cet angle-là. Les femmes et Puccini, c'est une histoire extrêmement compliquée, avec beaucoup de relief, mais où domine finalement ce qui aurait pu être le parfait sujet d'un opéra de Puccini, c'est-à-dire l'amour fou de jeunes gens qui s'aiment et qui ne vont devoir d'abord attendre ce geste ultime de quitter un époux pour aller vivre cet amour, ensuite attendre pendant 20 ans de concubinage le droit de pouvoir s'épouser, et ensuite passer un autre tiers de vie ensemble avec toutes les difficultés que cela peut représenter.
Chantal Cazaux, à partir de 1904, donc Puccini va chercher autre chose. Comment se positionne-t-il parmi les avant-gardes et dans la recherche de nouveaux moyens d'expression musicaux ?
C'est vrai qu'à partir de 1904, c'est-à-dire à partir de Madame Butterfly, on voit un net tournant, c'est-à-dire une présence dans sa musique de langage de plus en plus diversifié. D'écriture également de plus en plus diversifiée. Il va faire appel à des thèmes japonais pour Madame Butterfly, il va intégrer le pentatonisme, il va diversifier sa palette orchestrale, faire appel à des instruments de plus en plus originaux au fur et à mesure des années. Et c'est là qu'on voit ce Puccini qui est véritablement ancré dans le XXe siècle. Des gens comme Ravel, des gens comme Webern se plongent dans ses partitions et reconnaissent à quel point elles sont brillantes et intéressantes. On a Stravinsky qui est épaté par l'écriture orchestrale. On a Webern qui nous dit que la fin de Fanfula dell'Ouest est un feu d'artifice d'intérêt renouvelé à chaque mesure.
Il n'est pas du tout innocent que des compositeurs comme Schoenberg, par exemple, aient été sensibles à la beauté de la musique de Puccini. Enfin, il s'est fait preuve d'un snobisme ridicule, pléonasme, que de prétendre aimer Schoenberg et de prétendre, parce qu'on aime Schoenberg, détester Puccini. Schoenberg aimait Puccini, et Puccini d'ailleurs était tout à fait au courant des musiques de son temps. Puccini était un compositeur qui ne vivait pas du tout dans un vase clos, et sa musique se ressent des innovations qui ont été celles qu'il a connues. Parce que Puccini, qui est né à la fin du XIXe siècle et qui a travaillé aussi au début du XXe siècle, est un compositeur qui a connu les grands bouleversements. Il a connu la musique européenne via Stravinsky, via Schoenberg, etc. Et toute la musique de Puccini se ressent de l'écoute qu'il a faite des compositeurs contemporains, mais aussi du miel qu'il en a tiré. Et si l'on pense par exemple au début de Turandot, on ne peut pas éviter de penser, enfin, en tout cas c'est mon sentiment, au début d'Electra de Richard Strauss. La violence des accords, la brutalité de l'orchestre, et puis très très vite, hop, on entre dans la matière, on entre dans le drame.
Et en effet, le tournant de 1904 marque le début d'une grande aventure dans laquelle chaque nouvelle œuvre, distante à chaque fois de beaucoup d'années, va être incroyablement différente de la précédente, comme si c'était à chaque fois une exploration de nouveaux langages, de nouvelles écritures, de nouvelles rythmiques. Et pour le coup, en quittant un petit peu ce qui avait fait sa marque du début, c'est-à-dire les intrigues un peu intimistes, on va voir là, au contraire, arriver des choses spectaculaires, flamboyantes. Je pense évidemment à la toute fin à Turandot. Mais on a aussi dans le triptyque des moments comme ça qui sont franchement portés à l'effet. Et pourtant, avec une modernité incroyable.
heure après heure, minute après minute, je pense à Turandot. Et toute la musique que j'ai écrite auparavant me semble une petite farce et a cessé de me plaire. Giacomo Puccini.
Bernard Chambaz, la fin de la vie, enfin les 20 dernières années de la vie de Puccini se déroule sur un fond politique quand même assez marquant pour l'Italie. On a les grandes grèves socialistes, on a la montée du fascisme. Puccini a été sénateur en 24, donc 2 ans après la marche fasciste.
C'est plutôt les fascistes qui ont voulu attirer Puccini à eux. Donc, en fait, le secrétaire de la section fasciste, Viareggio, à côté de Torre del Lago, lui apporte une carte du parti fasciste. Mais quand il vient la porter à Puccini, chez Puccini, il vient pas en chemise noire. C'est comme vous l'avez vu dans 1900, il vient habillé en chemise blanche, de manière déférente, il lui donne la carte. Et là, je trouve que Puccini fait un truc, c'est génial si on veut, c'est-à-dire que l'autre lui apporte une carte pour ne pas être en dette. Qu'est-ce que fait Puccini ? Il lui donne une photo de lui-même dédicacée. Voilà, tu me donnes une carte, je la mets dans un coin, moi je te donne une photo dédicacée, tu la mets où tu veux. Et de la même manière, il a été nommé sénateur. Il a été nommé sénateur, c'est pas une élection, il est nommé, d'ailleurs il y a ce mot merveilleux en italien qui est honorable, enfin honorable sénateur. Lui, il aurait pu, mais là effectivement, ça c'est pas Puccini, il aurait pu dire je ne veux pas être sénateur, allez vous faire voir. Il le fait pas simplement, il dit, quand on lui dit vous êtes sénateur, il répond non, je suis sonateur. Donc voilà, je fais des sons, je suis pas sénateur. C'est pas du tout l'homme de l'idéologie fasciste. Je veux dire, ne serait-ce l'amour qu'il a pour les faibles est à l'antithèse de ce qu'est le fascisme.
Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia, casa mia. Per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia, casa mia.
Il y a une chose qui est peu connue, c'est qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 18, je crois, Puccini a quitté Torre del Lago. Une certaine lassitude, l'usine qui s'est installée, je crois même que c'était une scierie, tout s'en mêlant, il a décidé d'aller ailleurs. Et alors il est donc allé sur la côte la plus proche, cette fois-ci la côte méditerranéenne. Et il s'installe à Viareggio. Alors il a fait construire à nouveau une autre villa somptueuse à Viareggio. Et c'est là qu'il va terminer sa vie assez vite, puisqu'il meurt en 24 d'un cancer de la gorge. Mais c'est à Viareggio qu'il écrit notamment Turandot.
Ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est que Puccini compose ses derniers opéras au moment où le cinéma commence à naître vraiment comme art de masse et comme divertissement de masse, et comme divertissement qui va complètement détrôner l'opéra en occupant la même fonction, c'est-à-dire en occupant la fonction que l'opéra occupe au 19e, le divertissement de masse. Et Puccini pour moi fait le lien parce que c'est quelqu'un qui pense de manière cinématographique, je trouve. Et c'est comme si l'opéra continuait, qu'on continuait à la fois cette tradition 19e en lorgnant vers autre chose, et en même temps, l'opéra va devenir complètement autre chose au 20e. Et ce n'est pas l'opéra, mais le cinéma qui va prendre le relais. Peut-être pour ça aussi quelque chose de nostalgique chez Puccini, c'est qu'il représente ça, il représente la fin de l'opéra 19e, quoi, mais bien dans le 20e pourtant.
Une vie, une œuvre. Giacomo Puccini, l'homme des marais. Avec Chantal Cazot, musicologue et rédactrice en chef de l'avant-scène opéra, auteur de Puccini mode d'emploi. Bernard Chambaz, auteur de Caro Carissimo Puccini, publié aux éditions Gallimard. Mariam Clément, metteur en scène. Mico Franck, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Jean-Louis Grinda, directeur des Corégies d'Orange, Marie-Nicole Lemieux, cantatrice, Christian Vasselin, écrivain musicographe. Prise de son, Mathieu Leroux, Olivia Branger, Philippe Bredin. Mixage, Benjamin Vignal. Captation de Madame Butterfly à Orange, Yves Baudry, Adrien Rock, Alison Ascrizzi, Vincent Viltard. Merci à Sophie Nicoli et Laurence Payot à Orange. Documentation INA, Marine Decamp. Attachée d'émission, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Laetitia Leguet, réalisé par Christine Robert.
Cette émission est disponible en écoute et podcast sur le site de France Culture. Nous sommes sensibles à vos relais sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour Une vie, une œuvre, Richard Avedon.